pas si tu avais l'intention
Oui.
de le dire. OK, fait que je te laisse faire mon frère.
Je veux pas que tu me coupes mes scoops. Donc, bon, ça marche-tu? Un, deux. Un, deux. Un, deux. Ça marche. M'entendez bien? Bonjour à tous. Donc, fait plaisir d'être ici ce matin devant vous. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Mieux que les habitants de Chibougamau, n'est-ce pas, hein, qui ont été beaucoup éprouvés cette semaine. Hein? Pour ceux qui sont échappés aussi, oui, donc tous ceux qui ont été évacués. Hein? Oui, les réserves et tout ça. Donc, il y a plein de communautés autochtones qui ont été également évacuées. Et juste pour revenir à Chibougamau, parce que je viens de là, je suis originaire de là, ça s'est passé assez vite. Hein? Donc, pour regarder le fil des événements, mardi le 6 juin, c'est mardi qui s'est passé, la ville à midi annonçait que la SOPE faisait un coupe-feu mécanique afin de sécuriser la ville. Donc, tout va bien. 20h15, avis d'évacuation générale de la population. Le feu s'approchait, les vents venaient de changer de direction. Tout un changement en quelques heures. Et je suis persuadé que ça a causé beaucoup de stress aux habitants. Beaucoup d'inquiétudes aussi. Est-ce que ma maison va passer au feu? Est-ce qu'on va tout perdre? Donc, un avenir incertain. Et dans ces circonstances-là, c'est légitime de se poser la question, qu'est-ce qui va arriver? Et dans nos vies personnelles aussi, on peut vivre d'autres types de bouleversements, comme par exemple des décès d'un être cher. Dernièrement, notre sœur, Mme Jeanne, est allée retrouver son sauveur, malgré qu'on sait qu'elle s'en va au ciel en présence de Dieu. C'est une perte quand même. La mort, c'est le dernier ennemi, n'est-ce pas? Hein? Et c'est normal que ça nous fasse de quoi, parce que ça fait partie de notre nature, hein? Donc, ça peut être aussi une perte d'emploi, des divorces. Donc, on vit dans un monde d'incertitude. Comment avoir de l'espoir dans ce monde? Eh bien, c'est justement le sujet de notre série sur l'espérance du croyant. Et je crois que c'est très pertinent pour les temps qu'on a aujourd'hui. Donc, avant de débuter, je voudrais remettre cette prédication-là dans les mains de Dieu. Donc, je vais prier. Oh oui, Père Céleste, c'est vraiment sous ton regard que nous venons ce matin, Seigneur, afin que tu puisses nous parler, que tu puisses me parler à travers cette prédication, que ce ne soit pas juste des théories, des informations que nous recevons, mais que ce soit la vie de ton esprit à travers ta parole, Seigneur. Ta parole est une puissance qui a tout créé, Seigneur, et qui peut recréer aussi des choses dans nos vies, dans nos cœurs. Et on te demande que je puisse dépendre de ton Saint-Esprit afin que tu parles à travers moi et que on soit visité par toi ce matin, Seigneur, et que tu puisses faire des transformations dans nos vies pour la gloire de ton nom. Amen. Donc, on va peut-être... Faut-tu que je change la source, hein? Non, c'est correct? OK. Donc, comme on a dit, donc notre verset thème, donc sur la série de l'espérance du croyant, c'est celui-ci, Romains 15, 13. Il dit « Que Dieu, qui est l'auteur de l'espérance, vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Donc, on voit que c'est vraiment l'auteur de l'espérance, c'est Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut susciter de nous-mêmes parce qu'on n'est pas Dieu. Et pour avoir une assurance comme ça, un espoir, une espérance certaine, ça prend quelqu'un qui contrôle tout. Parce que nous, on ne contrôle pas grand-chose. Hein? Donc, mais on connaît celui qui contrôle tout, c'est Dieu. Il a la puissance pour le faire. Et il veut le faire, et il va le faire. Et cette espérance-là, ce n'est pas dans ce monde présent, c'est dans le monde à venir. C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Donc, On a vu justement qu'il y avait une impossibilité d'imaginer ce type d'espérance sans Dieu, parce que ça prend quelqu'un qui contrôlait tous les éléments. Nous, on ne sait même pas si on va se lever demain matin, ou même dans 10 minutes. Je m'étais bien tombé mort, je ne souhaite pas, là, je ne pense pas, là. Je me sens quand même bien, là, juste pour vous rassurer. Là. Donc, mais c'est ça, on est sujet, on est fragile, puis on ne contrôle rien. Mais Dieu contrôle tout, il sait l'avenir et il est tout puissant pour le faire. Donc, c'est pour ça qu'on peut avoir une espérance en tant que croyant. Donc, on a vu qu'on avait l'espérance d'un corps ressuscité, transformé, et ça, c'est merveilleux, que l'espérance d'un royaume éternel, et également, Paul nous a annoncé qu'on a l'espérance d'une relation épanouie avec Christ. Donc, on va faire une pause pour cette partie-là, et on va faire la 2.5 entre les deux. Donc, l'espérance de la gloire à venir, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, l'espérance de la gloire à venir. Donc, si vous voulez bien, j'aimerais ça que vous tourniez dans Romains, chapitre 8, versets 18 à 25. Donc, si vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave, je vais la lire. Je vais lire ce passage. Donc, Romains 8, 18 à 25. Donc, je vais vous lire ça dans la version sommaire. Si vous n'avez pas la version sommaire, ce n'est pas grave. C'est les mêmes choses, mais des fois, les mots qui sont utilisés dans les différentes versions, des fois, ça donne un éclairage différent. Moi, j'aime bien la version sommaire, mais toutes les versions sont bonnes. Donc, verset 18. Tout le monde est là, verset chapitre 20. Chapitre 8, verset 18. Excusez. C'est juste pour voir si vous suiviez. OK? Donc, verset 18 du chapitre 8. Ah, c'est correct, là? Donc, il dit, « J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. » 19. « C'est en effet cette révélation des fils de Dieu que la création attend avec un ardent désir. Car la création a été soumise au pouvoir de la fragilité. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Il lui a toutefois donné une espérance, c'est que la création elle-même sera délivrée de la puissance de corruption qui l'a servie pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Nous le savons bien, en effet, jusqu'à présent, la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs d'un enfantement. Elle n'est pas seule à gémir, car nous aussi, qui avons reçu l'Esprit comme un avant-goût de la gloire, nous gémissons du fond du cœur en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptif de Dieu, quand notre corps sera délivré. Car nous sommes sauvés, mais c'est en espérance. Or, ce que l'on espère, ce n'est plus espéré, qui, en effet, continue à espérer ce qu'il voit. Mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons, nous l'attendons avec persévérance. Donc, on voit dès le début de ce passage-là que Paul fait un constat très réaliste de la vie sur la terre. Il nous dit quoi? « J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente. » Donc, il ne fait pas le déni. Il ne dit pas « Tout est beau, Madame la Marquise, je connais le Seigneur et tout ça. » Non, on vit des souffrances et il est réaliste quant à ça. La question qu'on pourrait se poser, c'est… D'où viennent ces souffrances-là? Eh bien, pour ceux qui sont familiers avec la Bible, eh bien, ça vient de où? Les souffrances? Où ça a commencé? Dans la chute, dans Genèse 3. OK? Lors de la désobéissance d'Adam et Ève, donc, il y a eu comme une brisure entre notre relation avec Dieu et sa création. Donc, On peut résumer ça d'une certaine façon par une phrase, c'est qu'on vit dans un monde déchu et il fait donc mal d'y vivre. Mais ce n'était pas le plan de Dieu initialement. Il avait mis Adam et Ève dans un jardin qui était un endroit sûr, sécuritaire, où tous leurs besoins étaient comblés. Mais comme on a dit, suite à la désobéissance ou à leur rébellion envers Dieu, d'Adam et Ève, ils furent jetés hors du jardin, dans un monde maudit qui allait leur donner des ronces et des épines. Donc, les mauvaises herbes, puis tout ça, là, ceux qui font du jardin, ben, ça vient de là. OK? Hors du jardin, donc, c'est le domaine des désirs frustrés, des douleurs, des souffrances, des maladies, des vies de couple pénibles, des gangs pinks précaires, des morts subites, des feux de forêt, des guerres. La vie dans ce monde est une lutte constante contre un environnement hostile qui va finir par nous tuer. Et comme Paul le disait dans un de ses passages, dans 1 Corinthiens 15, 19, il dit « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Donc, tout cela est normal dans un monde déchu. Et l'apôtre Paul nous dit que la tristesse et les luttes sont un état normal dans ce monde. Dans ces circonstances-là, l'être humain cherche premièrement à se sentir mieux. On n'aime pas ça vivre dans la souffrance. Et il trouve un moyen pour ne plus lutter. Et sa quête vise justement à trouver des moyens qui vont diminuer sa souffrance. Retourner dans le jardin, plutôt que chercher à faire la volonté de Dieu dans les situations de la vie. Donc, la lutte est normale et inévitable. Réalisons que nous sommes créés pour vivre dans Genèse 2, mais que présentement, on vit dans Genèse 3. Mais où trouver cette espérance? Eh bien, notre verset thème nous l'a dit tout à l'heure, que le Dieu qui est l'auteur de l'espérance vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. C'est seulement en Dieu qu'on peut trouver la véritable espérance. Donc, OK, ça je l'ai dit. Donc, si on revient à notre verset 18, parce qu'on l'a arrêté ici, donc, il dit, j'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente. Donc, ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle est la gloire qui va se révéler en nous. Donc, il y a quelque chose de plus qui va se passer. Donc, la gloire qui va se révéler en nous. Donc, d'autres versions disent pour nous, mais en nous, c'est encore mieux. Donc, malgré toutes les souffrances du monde, nous avons l'espérance d'une gloire à venir. Mais à quoi ça va ressembler, cette gloire-là, à venir? Eh bien, on sait que tout d'abord que les êtres humains ont été créés à l'image de Dieu et il a reçu, l'être humain, une nature glorieuse. Avant la chute, ils étaient sans péché, une certaine forme d'innocence que nous ne saisissons pas tout à fait. Et Adam et Ève, ils irradiaient, ils transcendaient la gloire de leur Créateur. Et après la chute, l'être humain a perdu non seulement son état dénudé de péché et son innocence, mais aussi sa gloire, sa dignité et son honneur en tant que serviteur. C'est d'ailleurs pour cette raison que tous les êtres humains sont maintenant privés de la gloire de Dieu. C'est ce qu'on voit dans Romains 3, 23. Cette privation de la gloire de Dieu nous amène tous à rechercher la gloire de ce monde. Qui ne cherche pas la gloire? Levez la main. On cherche tous un petit peu de gloire. Hein? On cherche la gloire, oui. Hein? Donc, on cherche la gloire. Et le salut qu'on retrouve en Jésus-Christ a pour but de nous pardonner et de nous purifier pour nos péchés ou notre rébellion envers Dieu. Ce salut vise également à nous redonner la gloire de Dieu en nous apportant une gloire plus grande encore par cet acte de grâce souveraine de Dieu. Attention ici, Ceci ne veut pas dire que les non-croyants n'ont aucune gloire. C'est faux. OK? Non, car ils sont tous créés à l'image de Dieu. Donc, ils ont une certaine gloire, une certaine dignité qui vient de Dieu. Mais comme nous, cette dignité-là est obscurcie par le péché. Et faisons-nous pas d'illusions, nous aussi, malgré qu'on croit en Dieu, en tant que croyant, en péchant, on obscurcit aussi la gloire de Dieu. Donc, la gloire à venir des croyants va surpasser la gloire de l'être humain avant la chute, puisque la perfection que Dieu nous donne va surpasser l'innocence, car nous serons semblables à Jésus-Christ. Je ne sais pas si je l'ai mis, ce verset-là, ou je pense que je l'ai mis. Donc, dans 1 Jean 3:2, ça nous dit, « Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. » C'est encore caché. Souvent, on le cache assez bien. Nous savons que lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Semblable à Jésus-Christ, c'est quelque chose. Il était parfait, Jésus-Christ, sans péché. J'ai vraiment, vraiment hâte de rencontrer Jésus et d'être semblable à lui. Pas vous? On aspire à ça. Tous nos désirs plus profonds veulent, on veut plus, mais ça peut être satisfait seulement en Dieu. Donc, on va continuer notre lecture de Romains 8. Je pense qu'il faut y aller par là. Romains 8, 19 à 23. Je vais vous continuer. Je ne sais pas si je l'ai. Non. On va y aller verset par verset, mais je vais vous lire le passage au complet. C'est en effet cette révélation des fils de Dieu que la création attend avec un ardent désir. Car la création a été soumise au pouvoir de la fragilité. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Il lui a toutefois donné une espérance, c'est que la création elle-même sera délivrée de la puissance de corruption qui l'a servie pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Nous le savons en effet, jusqu'à présent, la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs d'un enfantement. Elle n'est pas seule à gémir, car nous aussi, qui avons reçu l'Esprit comme un avant-goût de la gloire, nous gémissons du fond du cœur en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptif quand notre corps sera délivré. Donc, comment la création attend-elle la révélation des fils de Dieu, selon le verset 19? Non, je peux vous le mettre. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Hein? Une vive attente ou un ardent désir. Une attente avec un ardent désir. Ce n'est pas un petit désir, ça, un ardent désir. C'est un désir très, très intense. Donc, très important, donc. La chute a eu des conséquences sur la création aussi, parce que la création a été maudite. Donc, les épines et les ronces qui poussent sur la terre, c'est une malédiction qui a été envoyée sur la création, sur la terre. Et quelle sera la conséquence de cette révélation des fils de Dieu pour la création? On voit ça au verset 21. Qu'est-ce que ça nous dit? Plus fort, je n'ai pas entendu. Wow! Quelque chose, hein? C'est que la création elle-même sera délivrée de la puissance de corruption dans le sommeur, qui l'a servi, donc, est sous le joug de la corruption pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. C'est quelque chose. Comme notre chute a eu une conséquence sur la création, eh bien, quand Jésus va nous ressusciter, quand il va refaire tout, bien, la gloire que nous connaîtrons va rejaillir ou va être transmise aussi à la création. C'est quelque chose. Donc, comme j'ai dit, donc, en raison de la chute, la création subit la servitude de la corruption, de notre corruption. Il faut bien s'entendre, on en fait partie aussi. Et c'est ce que Paul rappelle au verset 22. Donc, verset 22, il dit, « Nous le savons bien, en effet, jusqu'à présent, la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans des douleurs d'un enfantement. Les feux de forêt qu'il y a eu dernièrement en sont un triste rappel. » Donc, la création souffre. Mais ce n'est pas seulement la création qui gémit ou souffre. Qui d'autre gémit? Verset 23. Donc, nous tous, elle n'est pas la seule à gémir, car nous aussi, qui avons reçu l'Esprit comme un avant-goût de la gloire, nous gémissons du fond du cœur en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptif de Dieu quand notre corps sera délivré. Dans le chapitre 8, ou non, dans le chapitre 7 de Romains, il y a Paul qui fait un constat aussi de sa nature. Il dit, « Je fais les choses que je ne veux pas faire, et les choses que je veux faire, je ne peux pas les faire. » C'est ça qu'on parle. Donc, on veut faire des bonnes choses, mais on n'a pas la puissance de le faire, parce qu'on est encore dans la chair. Et c'est ce qu'il dit aussi, c'est ce constat-là qu'il fait. Si vous voulez lire le chapitre 7 de Romains, c'est très, 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 très bon parce que ça nous parle justement de ce gémissement-là que Paul ressentait. Il dit, « Qui me délivrera de ce corps de mort à la fin? » Il dit, « Grâce soit rendue à Jésus-Christ qui m'a délivré. » Donc, la délivrance vient de Jésus-Christ, mais elle n'est pas encore parfaite sur cette terre. Elle va être parfaite lorsqu'on va arriver à la gloire à venir. Et c'est ça qu'on parle ici. Donc, de la gloire à venir. L'espérance de la gloire à venir, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on aspire au plus profond de chaque être humain. C'est ce à quoi il aspire. Et comme on a dit, on va être délivré de toute infirmité lorsqu'on va aller vers Dieu. Toute infirmité, tout péché parce qu'on va ressembler à Jésus-Christ, comme on a vu tantôt dans 1 Jean 3:2. On va le voir tel qu'il est et on va être transformé à sa ressemblance. Et c'est une source d'espérance, comme le dit le verset 24 et 25, qu'un jour on va être délivré. Donc, ça nous dit, verset 24 et 25, « Car nous sommes sauvés, mais c'est en espérance qu'on est sauvés. Or, voir ce que l'on espère, ce n'est plus espérer. Qui, en effet, continue à espérer ce qu'il voit? Mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons, nous l'attendons avec persévérance. » Donc, c'est ça qui fait l'espérance du croyant. Maintenant, à quoi cette délivrance de la corruption pourrait ressembler? Eh bien, pour connaître la réponse, on doit aller voir dans le dernier livre de la Bible, Apocalypse, qui a été écrit 40 ans plus tard que l'Épître aux Romains. Donc, on comprend que Paul avait une révélation, oui, très bonne, mais des fois, c'est pour ça qu'on n'a pas juste Romains dans la Bible, il y en a plusieurs, donc ça sert à nous donner d'autres révélations de Dieu. Donc, si vous pouvez aller tourner dans Apocalypse, versets 21, 1 à 5, chapitre 21, Apocalypse, 1 à 5. Alors, je vois que vous suivez, c'est bon. Parce que moi, c'est écrit, c'est facile à suivre. Donc, l'Apocalypse, c'est un livre, c'est le dernier livre de la Bible, OK? Qui nous donne beaucoup d'informations sur les choses à venir. Donc, Apocalypse 21, 1 à 5. Non. Verset 1, il dit, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Celui qui est assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris ces choses, car ces paroles sont certaines et véritables. » Donc, on voit au verset 1 qu'il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. La question qu'on pourrait se poser, c'est, mais pourquoi avons-nous besoin d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre? Eh bien, une première réponse, et bien, on l'a vu dans Romains 8, que le destin de l'être humain et celui de la terre semblent liés. Donc, il y a un ardent désir pour la création d'être délivré de la corruption. Donc, car la création, justement, vit ou subit notre corruption. Et comme nous avons déjà vu que nos corps ressusciteront avec Brian les autres semaines, que nos corps ressusciteront pour une nouvelle vie, eh bien notre planète aussi aura un renouvellement. Le péché qui est en nous sera détruit. La corruption de notre planète aussi sera détruite. Et une autre question qu'on pourrait se poser, bien, pourquoi tout n'est pas spirituel? Ça serait pas mal moins de troubles, hein? Non? Si tout était spirituel et on détruirait tout ce qui était physique, puis on vivrait comme Dieu, Dieu c'est un esprit, donc de façon spirituelle. Eh bien, il y a un théologien qui a dit la chose suivante, et je trouve ça très intéressant. Il dit, « Si Dieu devait anéantir l'univers actuel, Satan aurait remporté une grande victoire. Satan aurait réussi à corrompre l'univers de notre terre actuelle d'une manière si dévastatrice qu'il n'aurait pas laissé à Dieu d'autre choix que de l'anéantir totalement. Mais Satan n'a pas remporté une telle victoire. Bien au contraire, sa défaite est cinglante et sans appel. » Et on pourrait ajouter la même chose pour notre propre corps. Pourquoi on ne devient pas spirituel? Bien, notre corps va être régénéré parce que Satan n'a pas tout détruit dans notre corps. On a quand même cette dignité de Dieu, cette image de Dieu qui est encore présente dans notre corps, dans notre être, que Dieu va restaurer. Et une autre chose que ça montre aussi, c'est que Dieu a limité le pouvoir de destruction de Satan sur sa création. On voit donc la puissance et la souveraineté de notre Dieu dans tout ça. Dieu est au contrôle. Et ça peut être une source d'encouragement pour nous dans nos difficultés, parce que Dieu est au contrôle aussi. Rien ne lui échappe. Au verset 2 et 3, donc du Apocalypse 21, il y a quelque chose de formidable. Qu'est-ce qui est formidable dans les versets 2 et 3? Oui. Excellent. Oui, c'est merveilleux. D'autres choses? Ah, exact, la présence de Dieu. Donc, OK, ça je l'ai dit, la présence de Dieu. Imaginez le Dieu créateur du ciel et de la terre qui, il y a une image dans la Bible qui dit qu'il tient l'univers dans ses mains, il va être au milieu de nous. On va être dans sa présence. Il habitera avec eux, ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Nous serons en sa présence pour l'éternité. C'est pas merveilleux? L'être le plus sublime de l'univers. On va avoir une relation directe avec lui. C'est quelque chose. Voir Dieu. Voir mon Sauveur face à face. Hein? Il y a un chant qui dit ça. Voir. En tout cas, je ne chanterai pas, là, parce que, bon, je vais vous faire sortir. Non? Hein? On va tous s'en aller, c'est ça. Même moi, je vais m'en aller. Non. Non. OK. Donc, la présence de Dieu. Présentement, on n'a pas la présence de Dieu physique. Même dans l'Ancien Testament, il dit on ne peut pas voir Dieu et survivre. Mais là, on va être en présence de lui. On va se délecter de sa présence pour l'éternité. On n'aura jamais assez de l'éternité pour se tanner de ça. C'est quelque chose. C'est quelque chose. En plus de la présence de Dieu, que voyons-nous au verset 4? Il essuiera toute l'âme de leurs yeux. Non. Et la mort ne sera plus, il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Dieu essuiera toute l'âme. C'est quelque chose. Si on peut recevoir un peu de consolation par nos proches lorsqu'on vit quelque chose de difficile, imaginez la consolation de la part de Dieu. Une consolation parfaite. J'en ai la chair de poule. C'est quelque chose, cette consolation-là. Il n'y a rien qui peut s'approcher de ça. La mort ne sera plus, ni deuil. Si vous avez déjà vécu la perte de notre chair, imaginez ce que nous ne vivrons plus ça. Ça va être quelque chose de passé. Ni cri, ni douleur. Car les premières choses auront disparu. Toutes nos blessures qui proviennent de ce monde déchu vont être guéries. Par exemple, pour ma part, je me sens souvent pas à la hauteur, incompétent, négligent. Tout ça va disparaître. Plus de honte, plus d'accusations de Satan. Imaginez. Ça va être merveilleux. Ça va être merveilleux. Tout ce qui nous pèse, notre passé qui nous pèse et qui nous presse aussi, souvent, tout ça, ça va être remplacé par la joie, la consolation de Dieu. Ça, je l'ai dit. Et que nous dit finalement le verset 5?
Il renouvelle toutes choses.
Oui.
Il ajouta, écrit que ses paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance.
Donc, ses paroles sont entièrement dignes et confiantes. Donc, ses paroles sont certaines et véritables dans ma version. Donc, certaines et véritables, on peut s'y fier. On ne sera pas déçu. Mais la question qu'on peut se poser finalement, et c'est peut-être la plus importante, mais comment faire pour recevoir cette gloire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, premièrement, il faut réaliser, comme la Bible dit, que tous, nous sommes pécheurs et sommes privés de la gloire de Dieu. Que le salaire du péché, c'est la mort. Il s'arrête ici, ce serait juste des mauvaises nouvelles. Mais il y a un « mais » par la suite dans ce verset-là. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, ce don-là est gratuit et il vient de Dieu. On va lui donner un cadeau à sa fête, va dire « Ah, qu'est-ce que 10$ pour le cadeau que tu viens de me faire? » Qu'est-ce que la personne qui vient de te donner un cadeau va sentir? Je te donne un cadeau de bon cœur, c'est comme le refuser. Donc, c'est gratuit, il faut l'accepter, il faut dire merci à la personne qui donne un cadeau. Eh bien, le cadeau que Dieu veut nous offrir, il est gratuit, il faut l'accepter. Car Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Dieu nous aime tellement. Une fois qu'on a reconnu ça, notre état devant Dieu, eh bien, il faut reconnaître justement que nous méritons sa juste condamnation et lui demander pardon pour nos péchés. Et accepter que Jésus a subi à notre place le jugement de Dieu pour nos péchés. Il a pris ma place. Et si on fait ça, bien, Dieu nous déclare juste devant lui. Et il y a un beau verset, passage, si vous voulez tourner dans Romains 5, bon, quoi qu'il va être au diapo. Donc, vous n'êtes pas obligé. Donc, Romains 5, 1 à 5, qui nous dit la chose suivante. Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, on peut être en paix avec Dieu une fois qu'on fait cette démarche-là devant Dieu, sincèrement dans notre cœur. Moi, je l'ai fait un jour, ça a changé complètement ma vie. Je suis parfait? Non. Mais ça, c'est grâce à mon Seigneur Jésus. Tous les mérites reviennent à Jésus-Christ. Ensuite, par lui, nous avons eu accès au moyen de la foi, à ce don gratuit de Dieu, dans lequel nous nous trouvons désormais établis, et notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. L'espérance de la gloire à venir. Ça vient de là. Donc, maintenant, on fonde notre espérance d'avoir part à la gloire de Dieu à cause de ce que Jésus a fait pour nous. Mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance. La persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Malgré toutes nos souffrances que nous vivons dans ce monde, et elles sont vraies, si nous avons mis notre foi en Jésus-Christ, nous sommes déclarés justes. Par Jésus, nous avons accès à ce don gratuit de Dieu d'être sauvés et d'avoir l'espérance, d'avoir part à la gloire de Dieu. Et de jouir un jour d'une liberté parfaite, d'avoir un corps parfaitement transformé. Et notre espérance ne risque pas d'être déçue. Pourquoi? Parce qu'elle est fondée sur Dieu, le Dieu tout-puissant qui a créé le ciel et la terre, l'univers tout entier. Il n'est pas capable de faire, il n'est pas capable de donner, de garder ses promesses. Oui, il est capable. C'est pour ça qu'on ne sera pas déçu. On ne sera pas déçu. Prions. Oh oui, Père Céleste, merci pour l'espérance de cette gloire à venir. Et cette gloire, ça vient de toi, Seigneur. Et pour avoir accès à cette gloire, tu as été obligé d'envoyer ton Fils, Jésus-Christ, sur la terre, mourir pour mes péchés, pour nos péchés. Merci, Seigneur, parce que grâce à ce sacrifice, j'ai maintenant un libre accès à toi, à ce trône de grâce pour obtenir miséricorde au temps convenable. Et qu'à la fin des temps, je vais être dans ta présence pour l'éternité et que je vais jouir d'une pleine délivrance. Je vais être en communion intime avec toi. Merci, Seigneur, pour tous ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ. Et si ce matin, tu n'as pas cette espérance de cette gloire à venir, que tu te poses des questions sur qu'est-ce qui va m'arriver lorsque je vais mourir, eh bien, la parole de Dieu nous dit, aujourd'hui même, c'est le jour du salut. N'endurcissez pas vos cœurs comme dans les temps anciens, Seigneur. Oui, c'est maintenant le jour du salut. Tu peux venir au pied de la croix, demander pardon pour tes péchés et recevoir ce pardon gratuit en Jésus-Christ et d'être déclaré juste devant Dieu, être déclaré enfant de Dieu, fille ou fils de Dieu et d'avoir part à cette gloire à venir qui est certaine et que tu ne seras jamais déçu. Bénis, Seigneur, ton nom, bénis ta parole et que vraiment ta gloire puisse se manifester dans nos vies pour les siècles des siècles. Amen. Donc Brian...